quatrième et dernier temps de notre semaine sur les politiques migratoires. Ce matin, dans notre débat, nous nous demanderons en quoi, justement, l'archéologie et les sciences qui l'accompagnent nous permettent de mieux comprendre les migrations. Pour terminer cette semaine consacrée à l'histoire des migrants et des migrations, la Fabrique de l'Histoire a réuni chercheuses et chercheurs qui travaillent sur des vestiges archéologiques et tentent d'expliquer et de retracer, à partir de ces documents, les itinéraires et les parcours des migrants depuis la préhistoire. En quoi les nouveaux outils d'analyse génétique nous aident-ils à mieux comprendre le phénomène migratoire? Changent-ils par exemple les schémas traditionnels de peuplement de l'Europe? Comment ces méthodes se combinent-elles avec les travaux des linguistes ou encore des anthropologues? Un grand colloque initié par l'Institut national de recherche en archéologie préventive, l'INRAP, s'est tenu en décembre dernier sur ce thème. Avec Anaïs Quien, qui a préparé cette semaine avec nous, nous recevons trois des intervenants à ces journées de recherche. Tout d'abord, Eva Maria Geigel, directrice de recherche au CNRS et co-responsable d'une équipe en paléogénomique à l'Institut Jacques Monod à Paris. C'est une unité mixte de recherche en biologie CNRS à l'université, avec l'Université Paris Diderot. Nous avons également au téléphone depuis Caen, Vincent Carpentier. Il est archéologue à l'INRAP, justement, et docteur en histoire et archéologie médiévale à l'Université de Caen. Et vous avez conduit de nombreuses fouilles d'établissements ruraux, antiques et médiévaux dans le nord-ouest de la France. Vous avez travaillé en particulier sur la question des Vikings et du peuplement viking dans cette région de Normandie. Et enfin, Patrice Brun sera avec nous. Il est professeur de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'UFR Histoire de l'Art et Archéologie, membre de l'UMR d'Archéologie et Sciences de l'Antiquité à la Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie de Nanterre.
You know what? The cradle of humankind was here in Africa.
Vous savez quoi? Le berceau de l'humanité,
this
c'est ici en Afrique.
For all the people.
Vous êtes dans la matrice de tous les peuples de la Terre. C'est comme l'histoire d'Adam et Ève, cette parabole historique qui veut que nous venions tous d'un seul lignage. Maintenant, la science vient nous dire, oui, c'est vrai. Imaginez ce que le monde serait si nous acceptions que nous formons une seule et même famille. C'est fantastique.
We are all Africans.
Nous sommes tous africains.
And thank you for being my relatives.
Et merci à vous de faire partie de ma famille. Un extrait d'un reportage d'Arte qui s'intitulait « L'ADN, nos ancêtres et nous » qui était réalisé par Franck Guérin et Emmanuel Lecomte. Et celui qu'on entendait, c'était l'archevêque Desmond Tutu en Afrique du Sud. Desmond Tutu, dont on a appris pendant le week-end dernier qu'il avait eu quelques soucis de santé, mais qu'il en était rétabli désormais. Desmond Tutu qui disait donc effectivement que grâce à l'archéologie, grâce à l'histoire et grâce à la préhistoire, on pouvait savoir effectivement que nous faisions partie d'une même famille. Bonjour Eva Maria Geigel. J'ai dit que vous étiez donc spécialiste en paléogénomique et que vous aviez participé à ce grand colloque qui s'était tenu en décembre dernier à l'initiative de l'INRAP à Paris autour de cette question, l'archéologie des migrations. En fait, il n'a pas vraiment raison, Desmond Tutu, ou il a raison en paléogénomique? Est-ce qu'on vient tous d'une même famille et du même endroit?
Il a pleinement raison. Et c'est aussi grâce à l'analyse de son génome qu'on a eu quelques détails de comparaison avec les Africains.
C'est-à-dire, expliquez-nous ça.
Quand nous, on extrait l'ADN à partir des ossements, on les compare avec les génomes des contemporains, c'est-à-dire les populations actuelles. Et comme ça, on peut reconstruire les migrations, les métissages entre les populations. On voit les liens de relations, donc quelles populations sont plus proches des autres. Et donc ainsi, on a pu reconstruire qu'en effet, on est tous des Africains.
Et donc, expliquez-nous peut-être même techniquement, parce que effectivement, nous sommes des historiens, nous avons l'habitude de nous intéresser à des documents d'archives, mais pas à ce type d'archives sur lesquels vous travaillez en paléogénomique. Comment on fait aujourd'hui et en quoi cette révolution de l'ADN, disons, chamboule les choses dans ce domaine de l'histoire des migrations, mais surtout, comment fait-on pour pouvoir, à partir de l'ADN, mieux comprendre cette question des migrations ?
C'est vrai, le génome, c'est un archive, c'est un patrimoine, autant que d'autres patrimoines, un patrimoine très important, et qui nous a montré qu'on est tous africains, mais en plus, on est tous des métis. On est métissés avec des populations dites archaïques, qui étaient en Eurasie avant l'arrivée de Homo sapiens qui a évolué en Afrique. Et qui après, en sortant de l'Afrique, s'est mélangé avec d'un côté les Néandertaliens, de l'autre côté en Asie avec des Denisoviens. Et les Denisoviens, c'est une lignée humaine qui était inconnue à la paléanthropologie, qui se révélait uniquement par son génome. Quand j'ai dit uniquement, c'est pas un terme pour limiter l'information. Au contraire, l'information que donne un génome est énorme.
Anaïs Kien.
Oui, je vais quitter très temporairement l'Afrique pour y revenir. Patrice Brun, vous travaillez sur la formation de l'identité celte. Et justement, dans cette communication que vous avez faite pour ce colloque, vous dites bien à quel point cette technique génétique a complètement désarmé une hypothèse première que vous aviez sur le sujet, sur comment cette identité celte s'était répandue du Caucase jusqu'en Irlande.
Elle ne l'a pas complètement désarmée.
Elle l'a modifiée,
appuyée dans un certain sens, mais je n'avais pas imaginé en effet les changements qui s'étaient produits, en particulier du point de vue génétique à ce moment-là. C'est intéressant effectivement pour notre discussion ici, c'est-à-dire que les archéologues, depuis en gros la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont eu tendance à être très très réservés sur toutes les interprétations en termes de migration, de grande migration. Ceci avait été la façon d'expliquer tous les changements que l'on observait pendant la proto-histoire, en gros depuis le néolithique jusqu'à la romanisation.
On expliquait tout par le déplacement des populations.
Oui, c'était l'école de Gustav Kosina, donc un Allemand, un grand savant allemand du début du XXe siècle, et qui a évidemment beaucoup plu aux nazis, et donc tout ça, ça a été extrêmement poussé par les différents gouvernements allemands.
Et puis représenté graphiquement avec beaucoup de force ces flèches des invasions barbares qu'on a tous vues dans nos manuels d'histoire qui représentent toujours un choc très violent. On a toujours l'impression que cela se fait très rapidement, que des masses de populations investissent, l'Europe occidentale d'ailleurs essentiellement, sans que les habitants indigènes puissent y faire grand-chose. Et là, on désarme complètement cet effet de choc, cet effet massif, cette migration massive représentée par toutes ces flèches colorées qu'on a pu voir dans ces manuels d'histoire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on se rend compte maintenant que l'on connaît mieux, grâce à l'archéologie, le mode de vie de ces gens-là, leur économie, leurs possibilités militaires, etc. On se rend compte qu'il était absolument impossible à cette époque-là qu'il y ait des déferlements de population, des déferlements de migrants, donc les barbares, comme ça a été véritablement à la mode très longtemps pour ce qui concerne donc la fin de l'Empire romain, etc., etc. Et donc il y avait un petit peu les mêmes images qui circulaient et qui avaient beaucoup d'autorité en Europe, au-delà même de l'Allemagne, parce que ils ont développé parallèlement tout de même une archéologie extrêmement puissante, très très bien financée sur le terrain, et qu'ils avaient la chance en plus, pour ce qui concerne les périodes néolithiques de l'âge du bronze et de l'âge du fer, d'avoir eu dans le sud de l'Allemagne des populations proto-historiques qui avaient eu tendance à enterrer plus de gens et avec plus de mobilier dans les tombes. Ça, c'est merveilleux pour l'archéologie, évidemment, pour la chronologie, etc., etc. Donc, ils avaient une certaine avance. Et ils ont donc exercé une espèce d'autorité morale, si vous voulez, et intellectuelle, assez longtemps. Et ce n'est qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale que l'on a eu tendance à revenir là-dessus, bien entendu.
Oui, alors, pour des raisons idéologiques, parce qu'effectivement, ça avait été défendu par les nazis. Et pendant un certain temps, on a effectivement évité de reprendre ce type de thèse. Mais ce qui est intéressant dans votre parcours et dans la communication que vous avez faite, justement, lors de ce colloque du mois de décembre dernier sur l'archéologie des migrations qui se tenait donc au musée de l'immigration à Paris, c'était en décembre dernier, c'est que il est rare, assez rare, qu'un chercheur, une autorité comme vous, Patrice Brun, accepte dans un colloque de dire, oui, tout compte fait, des nouveaux moyens, des nouvelles techniques viennent contredire ce que je pensais depuis longtemps. Vous n'êtes pas un chercheur très âgé. Et d'un seul coup, vous acceptez de dire dans votre parcours professionnel, bah oui, peut-être me suis-je trompé, au moins sur certains points, parce que les analyses de l'ADN, par exemple, disent autre chose que ce que j'avançais jusqu'alors, Patrice Brun.
Oui, votre question me surprend un petit peu, si vous voulez, parce que moi, lorsque j'ai commencé à faire de la recherche d'un point de vue professionnel, pour moi, ça allait de soi. Un chercheur, ça doute toujours. Un chercheur doit être complètement ouvert.
Pour moi aussi, mais on n'a pas assez de preuves, justement, de ce doute public, en tous les cas, souvent.
Ah oui, oui, effectivement, il y en a très peu qui le font. Et moi, ça m'a beaucoup étonné. Je trouve toujours ça inacceptable. Hein. Ouais. Donc, moi, j'ai pour, effectivement, habitude, lorsque je reviens sur une idée, une hypothèse que j'avais formulée auparavant, de, par écrit, donc, en publiant les choses, en disant pourquoi je m'étais trompé, dans quel sens, maintenant, il faudrait plutôt penser.
Alors justement, prenons cet exemple. En quoi justement cette découverte ou ces découvertes liées à l'ADN sur la thèse du peuplement celte de l'Europe occidentale change-t-elle les choses ?
Alors donc pour ce qui concerne l'origine des Celtes, j'avais été un petit peu en pointe aussi pour ce qui concerne donc le fait de remonter la reconnaissance de cette relative unité stylistique sur une bonne partie de l'Europe au troisième millénaire, alors que jusque-là, pour ce qui concerne l'origine des Celtes, on avait tendance à dater le déclenchement de ces phénomènes au 5e siècle avant notre ère, donc beaucoup plus récemment. Je m'étais aperçu, j'étais pas le seul, on n'est jamais le seul en réalité, quand on regarde un petit peu dans l'histoire, il y a toujours des gens qui ont eu des bonnes idées. Je me suis aperçu que ça ne collait pas du tout avec les données archéologiques actuelles. Et que donc pour retrouver un moment, si vous voulez, où sur les cartes de répartition du point de vue stylistique, etc., donc tout ce qu'on peut fabriquer du point de vue archéologique, on pouvait avoir effectivement une sorte de chevauchement entre la carte linguistique, toutes les zones où l'on est sûr que des gens ont parlé ou continuent aujourd'hui encore à parler des langues celtiques, il faut remonter aux environs du milieu du troisième millénaire avant notre ère, et ça correspond au fameux phénomène campaniforme qui aussi a été beaucoup abordé, etc.
Alors, expliquez.
Oui, ce sont des poteries particulières, donc en forme de cloche.
Avec un style très très particulier, et on a eu la surprise peu à peu, au fur et à mesure des découvertes, de se rendre compte que on en trouvait de Budapest à Galway en Irlande, de Copenhague jusqu'à Tanger même, etc., etc. Donc c'est la première fois, si vous voulez, où on avait une aussi vaste zone de l'Europe où l'on pouvait deviner une certaine homogénéité culturelle. Oui.
Anaïs Quin.
Et Patrice Brun, vous arrivez à un scénario final sur cette question où vous décrivez finalement une migration de population plutôt douce et relativement heureuse de rencontres entre de grands éleveurs et des agriculteurs qui se rencontrent et qui finalement mélangent leurs atouts pour survivre au mieux sans véritablement de guerre. Vous insistez bien sur le fait qu'apparemment il n'y a pas eu d'extermination ou de grande guerre, d'opposition entre ces peuples-là, et que ces peuples se sont mariés, se sont reproduits et ont essaimé ainsi ces peuples qui venaient du Caucase jusqu'en Irlande.
Oui. Alors pour expliquer justement le pourquoi de cette homogénéité culturelle, j'avais donc émis des hypothèses qui laissaient de côté, de manière très marginale, donc tout ce qui était déplacement de population. On savait qu'il y en avait eu quelques-unes qui étaient relativement bien attestées, mais pas massives, si vous voulez, et pas extrêmement rapides. Or effectivement, les résultats de l'étude génétique maintenant montre que on s'était là lourdement trompé là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un changement radical de ce point de vue-là.
Oui. Et vous n'aviez aucun moyen de trouver cela sans ces analyses génétiques ?
Non, aucun moyen.
Et donc ça veut dire que vous dialoguez avec des chercheurs et des chercheuses comme Eva-Maria Geigel, donc et qu'il faut trouver peut-être aussi un langage commun, Eva-Maria Geigel, d'une certaine façon, c'est un langage de science qu'on appelle dur, que vous développez en paléogénomique. Il faut que vous fassiez comprendre à des gens qui peut-être n'ont jamais pratiqué ce type de science, des historiens, des préhistoriens, des archéologues, en quoi votre discipline va les aider à mieux comprendre, Eva-Maria Geigel.
C'est le défi de toute discipline de tout travail interdisciplinaire. Et c'est le défi, mais c'est aussi la joie. Pour moi, rien de plus intéressant que dialoguer avec d'autres disciplines. Donc oui, il faut se faire comprendre. mais dans les deux sens. Nous oui. aussi, il faut qu'on comprenne.
Oui, parce que vous n'avez pas de formation d'historienne, par exemple.
Oui.
Et donc, il faut aussi que vous compreniez les thèses dont parlait Patrice Brun, qui
absolument.
Étaient des thèses prédominantes dans le milieu des historiens, et que vous acceptiez de les contredire, de venir, ou au contraire, les soutenir. Et tout ça, c'est un
absolument.
Vrai travail intellectuel, effectivement.
Oui, Eva. Absolument. Ça, c'est vraiment une joie.
Vincent Carpentier, vous êtes avec nous au téléphone depuis Caen. Vous êtes chercheur et archéologue, docteur en archéologie et en histoire médiévale, spécialiste entre autres des questions des Vikings. Et vous êtes intervenu dans ce grand colloque du mois de décembre dernier sur l'archéologie des migrations à Paris. Vous êtes intervenu sur cette question des Vikings et en quoi, effectivement, on était en train de réfléchir à la masse ou pas. De ces gens qui seraient venus du Nord pour s'installer en Normandie. Vous dites que l'archéologie vous sert beaucoup, évidemment, puisque vous êtes archéologue en particulier, mais qu'il faudrait peut-être adjoindre à cette discipline d'autres disciplines scientifiques, pourquoi pas justement ces questions de paléogénomique, pour pouvoir, disons, invalider certaines thèses sur le peuplement viking de la Normandie, ou au contraire, les conforter, Vincent Carpentier.
Oui, alors c'est vrai que cette question rejoint du point de vue de l'angle critique sous lequel on la traite aujourd'hui. Cette question rejoint complètement l'actualité posée par Patrice Brun au regard de la proto-histoire. C'est-à-dire qu'on a affaire à un contexte de connaissances qui remonte assez loin dans le temps et dont les fondations, en gros, sont imputables à la fin du 19e siècle et puis surtout à l'archéologie des années 30, 40, donc avec une forte influence des chercheurs allemands, en particulier de cette période-là, surtout ce qui concerne l'historiographie des grandes invasions, des grandes migrations des peuples du Nord, et donc un arrière-plan idéologique qui a commandé, en quelque sorte, une lecture guerrière, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, une lecture coloniale du phénomène. Et il a fallu démontrer, pour soutenir cette thèse, ça a été relayé très longtemps, en particulier en Normandie, vis-à-vis des Vikings, et il a fallu démontrer que ces hommes étaient nombreux, qui sont venus s'installer en masse, en quelque sorte, qui se sont emparés d'un territoire et qu'ils ont créé une nouvelle nation. Voilà, c'est l'émergence d'une nouvelle nation avec tous les a priori en arrière-plan liés à la supériorité ethnique
des races nordiques,
en quelque sorte, et également naturelle hein, de ces peuples par rapport aux indigènes.
C'était des thèses qui étaient défendues jusque dans les années. C'est des thèses qui ce sont des thèses qui ont été défendues jusque dans les années 70-80 par des universitaires.
Aujourd'hui, dans le grand public, à travers un certain nombre de publications. Bon, qui sont de moins en moins nombreuses, on peut s'en féliciter. En tout cas, dont les références scientifiques sont très datées. Effectivement, pour la plupart, remontent aux années 60-70, lorsque se sont développés des courants folkloristes, tous les courants liés à l'histoire régionaliste, etc. Bon, du point de vue idéologico-politique, très souvent. Affiliés à justement ces mouvements racistes, ces mouvements d'extrême droite, eux-mêmes héritiers de l'histoire et de l'archéologie des années 30. Alors le problème, c'est que le fil conducteur de cette longévité hein, de ces thèses, il est encore aujourd'hui tout à fait palpable, parce que c'est celui de l'identité des peuples. Ce sont des problématiques qui dépassent largement le thème des Vikings, qu'on retrouve dans toutes les postures, en tout cas l'historiographie liée aux postures des intellectuels, historiens, archéologues ou autres, au regard des migrations et de l'histoire des colonisations. Il s'agit de comprendre par quel mécanisme un peuple a pu s'installer dans un nouveau territoire et créer, le cas échéant, une entre guillemets civilisation neuve avec des caractères originaux.
Mais d'ailleurs, Vincent Carpentier, vous nous expliquez bien que les Vikings sur lesquels vous travaillez sont un invisible archéologique. C'est-à-dire que toute votre communication à ce colloque décrit à quel point il est difficile de trouver réellement ces traces de Vikings. Et finalement, cette question de l'apport génétique pourrait révolutionner, mais elle est encore à venir dans votre domaine, qui est cette recherche sur l'installation viking en Europe occidentale.
Tout à fait. Alors l'archéologie, bon, je ne reviendrai pas sur le dossier, elle présente quand même un certain nombre de sources. Hein. Il y a des traces matérielles. Mais on a longtemps voulu croire, par exemple, que sur le continent, les Scandinaves avaient importé des modèles de maisons nordiques tels qu'ils les construisaient dans leur contrée d'origine, etc. Bon, toutes ces choses, cet exemple, il y en aurait peut-être d'autres, sont complètement démentis aujourd'hui par l'archéologie, qui doit chercher à comprendre d'une part pourquoi il existe un tel silence, parce que les Vikings sur le continent ont laissé très peu de traces matérielles au regard par exemple des îles britanniques. Bon, donc c'est le silence lui-même est une donnée, il faut essayer de la décrypter, puisque dans d'autres contrées dans lesquelles ils se sont installés, les archéologues découvrent beaucoup de choses, par exemple des trésors très importants et britanniques, alors qu'ils sont très rares sur le continent. Donc vraiment, le silence en lui-même est déjà une donnée. En revanche, il suffit pas, bien sûr, à démonter le mythe qu'on a pu construire au cours de toutes ces années. Donc l'archéologue se tourne d'une part vers les historiens, qui eux, depuis longtemps, travaillent aussi sur les textes, hein, des informations qui nécessitent bien sûr une critique, mais qui sont relativement abondantes et qui permettent d'y voir un peu plus clair, en tout cas sur les modalités politiques, événementielles, etc., de cette installation, de ces migrations. Et puis, se tournent également vers nouveaux matériaux, dont celui dont on parle en particulier aujourd'hui, que celui de la génétique. Alors, je suis un peu plus réservé sur ces questions-là, parce que, concernant les Vikings, une tentative a été faite. En 2015, une équipe britannique de l'Université de Leicester a tenté une enquête à partir de l'ADN mitochondrial auprès d'un échantillon de population du nord de la Normandie occidentale, du nord Cotentin, autour de la petite ville de Valognes. Donc on a sélectionné un petit échantillon d'hommes qui portaient des noms de famille censés provenir d'une origine nordique, plus ou moins lointaine, et puis également dont les ascendants, alors on est remonté jusqu'aux grands-parents ou arrière-grands-parents, guère plus loin, les ascendants avaient toujours vécu sur place. Et les résultats de ce test, qui avait le mérite d'être le premier en la matière, donc c'est toujours intéressant de, malgré tout, les réserves qu'on peut formuler, de voir ce que ça donne, mais les résultats sont loin d'avoir démontré une origine génétique nordique bien claire, puisque au maximum, je crois que le chiffre maximal est de 59% de probabilité pour des origines scandinaves, alors qu'en revanche, d'autres souches orientales, donc il s'agit d'Arméniens, de Géorgiens, également de Nord-Africains, ont été mises en évidence.
Détecté.
Ce qui était totalement inattendu dans cette région.
Alors justement, puisque nous avons une paléogénéticienne avec nous, à savoir Eva Maria Geigel, est-ce qu'on fait comme toujours en science, on commence par douter, nous disait Patrice Brun, on se dit, voilà, est-ce que cette discipline va m'aider, ne va pas m'aider, comme vient de le dire Vincent Carpentier, à mieux comprendre mon terrain d'étude. Alors ces surprises, par exemple, qu'il décrit, à savoir de retrouver des traces de gènes arméniens, caucasiens ou nord-africains chez des habitants de Valognes, ce n'est pas une surprise pour vous, Eva Maria Geigel?
Ce sont des analyses sur les populations actuelles et en plus mitochondriales.
Alors, expliquez-nous, parce que ça, quand on lit vos articles, effectivement, quand on n'est pas spécialiste de sciences dures, on se dit, mais il y a deux ADN, donc il y a un ADN mitochondrial qui, lui, est transmis par la maternité, par le caractère maternel, pourrait-on dire, et puis un autre ADN qui est un ADN qui, lui, transmet des caractères génétiques plutôt paternels et masculins. J'ai cru comprendre ça, ou pas du tout. Voilà.
On a deux compartiments, c'est vrai. C'est la mitochondrie, qui est la petite, un petit organite qui produit l'énergie pour la cellule et qui a son propre génome et qui est transmis uniquement par la mère.
D'accord.
Donc nous avons tous l'ADN mitochondrial de notre mère. Par contre, l'autre partie du génome, et ça c'est la majorité, parce que tout est codé là-dedans, toute l'information phénotypique, c'est-à-dire notre morphologie, notre apparence, notre fonctionnement, notre développement, ça c'est dans les noyaux, et ça c'est partagé entre père et mère. Donc on a aussi bien le génome du père que le génome de la mère. Après, ce qui est exprimé, ça dépend comment ça se recombine. Donc, quand je lis une étude faite sur l'ADN mitochondrial, en plus dans les populations actuelles, ça me permet de retracer des lignées maternelles jusqu'à un certain moment. Ça dépend où est le goulot d'étranglement et comment est l'histoire exactement, avec des probabilités seulement, hein, c'est pas 100%. Mm-hmm. Et là, c'est pas étonnant pour moi de voir que les populations portent des signatures, finalement, des néolithiques. Donc, des agriculteurs, des premiers agriculteurs qui venaient de l'Anatolie et qui se sont installés au fur et à mesure, au cours de 6000 ans à peu près.
Et cela, on le trouve dans l'ADN mitochondrial, justement, cette longue lignée qui
absolument
remonte jusqu'à cette période-là.
Absolument. Et on voit aussi un gradient. On voit un gradient du sud au nord. Il y a plus de ces agriculteurs anatoliens chez les méditerranéens, par exemple les Sardes. C'est la population qui porte le plus de ce génome néolithique, disons, que les Scandinaves qui ont retenu plus du génome des mésolithiques, c'est-à-dire les populations qui étaient là, les autochtones qui étaient
avant
là
l'arrivée
en Europe, avant l'arrivée des agriculteurs qui venaient du croissant fertile.
Et donc, vous faites ce travail, effectivement, et vous proposez des hypothèses, j'imagine, à des chercheurs qui peuvent être des archéologues, des historiens. Il y a, je crois, un grand projet que vous, auquel vous participez, Maria Geigel, qui s'appelle Ancestra.
Oui, c'est
et quel est-il, ce projet, exactement?
C'est un projet qui est dans notre labo, dans mon équipe, hein, qui est portée par une chercheuse de mon équipe, qui étudie donc le peuplement de la France à partir de, disons, néolithique. Mmh. On essaye aussi un peu avant, mais l'axe principal, c'est du néolithique jusqu'au Moyen-Âge.
Mmh. Et donc, vous le faites à partir de cet ADN et vous...
Mais ça, par contre, à partir d'ossements.
Doucement.
Donc ça, c'est ça la différence avec l'étude qui vient d'être mentionnée, où on a analysé des populations actuelles. Nous, on analyse vraiment les ossements des sites archéologiques et après, on compare avec les populations actuelles.
Anaïs Kien.
Oui, Patrice Brun, ces nouvelles techniques et ces nouveaux résultats sont évidemment de bonnes nouvelles, mais n'y a-t-il pas un risque de fascination, finalement, un risque de fascination excessive qui pourrait mettre en péril aussi les autres pratiques attachées à la discipline archéologique en faveur de ces recherches génétiques où finalement on consacrerait l'essentiel des budgets, l'essentiel de l'effort à trouver des résidus d'ADN au détriment des pratiques de fouilles traditionnelles de l'archéologie?
Non, pas du tout, parce qu'ils ont besoin des archéologues pour avoir des squelettes.
Mmh. Et plutôt... Donc c'est une chaîne de transmission.
Oui,
et
oui,
les absolument. Informations qui vont avec.
Et les informations qui vont avec,
ossements.
Le contexte, etc., bien entendu. Oui, donc voilà.
Oui, parce que ça veut dire aussi, Vincent Carpentier, qu'il faut travailler, comme on le disait depuis le début de cette émission, avec Eva Maria Geigel et avec Patrice Brun, il faut travailler avec les autres disciplines. Donc il faut trouver des terrains d'entente, des terrains de discussion, et donc imaginer qu'on puisse faire fusionner tous ces savoirs dans un savoir commun.
C'est précisément ce qui est à l'œuvre, on l'a entendu. Le plus difficile... j'évoquais cet exemple parce que vous l'avez compris, c'est une enquête assez pionnière qui d'ailleurs a suscité beaucoup d'interrogations et de doutes avant qu'elle ait lieu. Moi, je me félicite que cet essai ait quand même été tenté puisqu'il démontre effectivement l'inanité d'une recherche de entre guillemets de pureté génétique, mm-hmm. y compris dans des régions qui ont été culturellement et peut-être effectivement du point de vue du nombre assez fortement marqué, tout est bien entendu relatif, par une présence scandinave à une certaine époque. On observe que ce mouvement, qui est quand même extrêmement limité dans le temps long de l'histoire, n'a pas affecté de façon significative le matériau génétique. Et ça, ce sont les généticiens qui doivent le dire. Il faut définir des protocoles rigoureux. Donc chaque discipline effectivement intervient dans le cadre d'une recherche qu'on peut qualifier globalement d'historique, l'archéologue, au même titre que l'historien, au même titre que les linguistes, pour ce qui concerne, par exemple, encore une fois, cette question des migrations vikings. Mais il faut que chacun puisse, évidemment, appliquer les méthodes et les nécessaires protocoles rigoureux propres à sa discipline, afin que les résultats soient valides. Mmh. Cette enquête a été tentée, à mon avis, un peu trop, sans doute, dans l'idée de démontrer, une fois de plus, de façon sans aucun doute moderne, mais en tout cas, à mon avis, détournée, la réalité d'un peuplement dans une optique coloniale, une mm-hmm. optique d'immigration massive. Moi, je me réjouis un peu de ces résultats parce que il contribue finalement à démonter encore un peu plus cette
thèse colonisatrice. Cette thèse colonisatrice voilà. que vous contestez voilà. en tant qu'archéologue et historien.
Le silence relatif des sources archéologiques.
Oui, parce que votre thèse, effectivement, Vincent Carpentier, c'est plutôt qu'il n'y a pas eu de colonisation de la Normandie par les Vikings, mais que c'est un petit nombre de migrants scandinaves. Vous dites peut-être un millier, peut-être 2000 qui se sont installés et qui se sont très rapidement, là aussi, comme le disait Patrice Brun pour la question des Celtes, très rapidement fondus à la population sur place. Eva Maria Geigel.
Et si ces Vikings qui sont arrivés étaient majoritairement des hommes qui se sont mariés avec les autochtones en Normandie, qui étaient, elles, des néolithiques, donc des agriculteurs, forcément. Donc ça expliquerait, même s'il y avait continuité, sans grand métissage après, ça expliquerait pourquoi la signature mitochondriale, donc maternelle, est néolithique, anatolienne. Tandis que là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut analyser d'un côté les génomes des populations actuelles en Normandie, par exemple, pour voir quelle est la répartition des différents apports, des différents composants, et faire un projet sur les squelettes vikings en Danemark et en Normandie, et voir comment ça s'est composé.
Ça s'est composé. Et ce projet Ancestra que vous coordonnez dans votre laboratoire, en l'occurrence Eva Maria Geigel, ce projet Ancestra, il aura quelle allure et il aura quel but quand il se terminera? On pourra dire, voilà, il y a tant de pourcents de la population française aujourd'hui qui seraient issus de telle partie du monde, à telle période, avec une arrivée de tant de personnes qui viendraient de tel endroit, etc. Un peu comme on a découvert très récemment, justement grâce à la paléogénomique, qu'il y a du néandertalien en nous. On découvrirait qu'il y a d'autres types de populations en tel pourcentage. C'est cela le but d'Ancestra, en l'occurrence, Eva Maria Geigel?
Déjà pour reconstituer le récit national, c'est une aventure qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, mais pour voir, déjà reconstruire l'histoire, sans forcément dire maintenant, moi j'ai 10% viking et 15%...
Mais justement, est-ce que ça n'est pas le danger, Eva Maria Geigel, de rendre finalement, de créer des identités traçables sur des siècles, mais voire même des millénaires, et de finalement
fournir... Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'on est tous des métis, qu'on est tous des produits de migration depuis longtemps, depuis les Néandertaliens, depuis 60 000 ans.
Qu'il n'y a pas de pureté.
40 000 ans en Europe.
Qu'il n'y a pas de pureté, en l'occurrence, c'est ça?
Pureté, ça veut dire quoi?
Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'ont cru pendant très longtemps les théoriciens des races, par exemple.
On est des produits de l'évolution, de toute façon. On a commencé avec des cellules qui étaient des unicellulaires, des petits organismes unicellulaires. Ça, ce sont nos ancêtres à nous tous.
Donc nous sommes le produit de rencontres incessantes, c'est ce que vous dites.
Absolument.
Et justement, sur ces questions-là, on pourrait se dire, et on sait bien, il y avait dans ce colloque Jean-Paul Demoule qui dirigeait dans ce colloque du mois de décembre dernier sur l'archéologie des migrations, qui dirigeait une des tables rondes. Jean-Paul Demoule a publié récemment, il est venu en parler ici, un livre qui conteste la théorie indo-européenne en particulier, qui dit effectivement qu'elle est très marquée par la période dans laquelle elle a été élaborée, les années 10, 20, 30 du XXe siècle, en l'occurrence, Patrice Brun. Mais tout compte fait, la vraie réflexivité du chercheur, c'est de se dire peut-être aussi que ce qu'on est en train de produire aujourd'hui, ce que vous êtes en train de produire, ce que tous ceux qui sont autour de cette table sont en train de produire, sont marqués aussi par l'ambiance, l'air du temps, la mondialisation, l'idée qu'effectivement tout le monde migre sur cette planète d'un bout à l'autre de la planète, etc. Et que peut-être dans 50 ans ou dans 60 ans, un Jean-Paul Demoule des années 2100 viendrait dire tout compte fait, tout ça c'était marqué par la période en question, Patrice Brun.
Tous les chercheurs savent qu'ils sont eux-mêmes influencés par leur éducation, etc., etc. Et donc, normalement, sont formés à se méfier beaucoup de ce genre de réflexe, je dirais, presque identitaire, quoi. Donc, la science, justement, sert à ça. Faire de la science sérieusement, ça permet effectivement d'essayer de dégager des arguments qui soient objectifs, le plus objectifs possible. Alors, quand il y a une nouvelle technique, comme un nouvel outil ou quoi que ce soit, c'est un progrès, dans un certain sens, évidemment. Ces nouveaux outils sont toujours utilisés par certaines personnes à des fins négatives. On peut pas éviter ce genre de choses.
Il y a la recherche et il y a les usages de la recherche.
Voilà, absolument.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une étape nécessaire, justement, sur l'histoire de la discipline archéologique, dont on a commencé à entendre parler vraiment dans le grand public au moment de la sortie du livre de Laurent Olivier sur l'influence de l'archéologie nazie sur l'archéologie française il y a quelques années, une nécessité de dépolluer finalement la discipline de cette production massive très marquée par une recherche de récits identitaires. Patrice Brun.
Je pense que Laurent Olivier a beaucoup exagéré dans ce sens et que moi je me suis d'ailleurs
le sombre abîme du temps, c'était
oui. Quand on regarde de près ses arguments, etc. Donc ça amène que les Allemands ont beaucoup travaillé là-dessus, évidemment. Ils ont été eux-mêmes traumatisés par tout ça. Ils sont très très attentifs, évidemment, à ce genre de choses. Il y a eu un certain nombre d'études sur l'historiographie allemande où les Allemands donc ont dit qu'elle était effectivement le degré en quelque sorte de contamination par le nazisme. De là à dire que les Français ont été contaminés aussi par le nazisme, parce que c'est ça qu'il finissait par dire dans un de ses articles. Donc, pour moi, non. Et j'avais écrit d'ailleurs une réponse pour dire que là, c'était complètement excessif, bien entendu. Et
sur ce point, Vincent Carpentier, sur le poids des héritages, pourrait-on dire, de la discipline, sur le travail que l'on fait quotidiennement, et aussi la nécessaire remise en cause de ces héritages par la recherche et par les découvertes que l'on fait. Quand on travaille comme vous sur la question normande, les thèses normanistes qui ont longtemps vécu, vous l'avez dit, et qui ont encore fleuri il y a peu de temps et qui fleurissent encore, effectivement, il faut savoir s'en détacher parce que ce que l'on trouve ou ce que l'on ne trouve pas dans la recherche archéologique vient les contredire. Et il faut avoir un moment la franchise ou l'honnêteté de dire, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Il faut donc les mettre au rencard pour aller voir ailleurs, Vincent Carpentier.
Tout à fait. C'est une... Alors effectivement, ce sont des postures contradictoires qui sont sans doute dans l'air du temps, puisque... à l'ère de la mondialisation, hyper médiatisée par ailleurs. Les archéologues, les historiens, tous les chercheurs en sciences humaines s'intéressent à des échelles spatiales, des échelles de temps plus importantes sans doute que celles qu'on a privilégiées par le passé, mais c'est sans aucun doute une bonne chose. Je pense que tout chercheur remplit ainsi son contrat en quelque sorte d'utilité publique en répondant à des préoccupations du moment. Ce qui importe, sur le fond, je pense, c'est de faire avancer le questionnement et aussi de produire des sources et donc des connaissances nouvelles, en tout cas, en l'occurrence, revisitées. Il existe exactement la même pesanteur que celle qu'évoquait Patrice Brun tout à l'heure au sujet des origines de la discipline archéologique médiévale, puisque des chercheurs... y compris normands, comme Michel Debois, ont été récemment effectivement remis en cause. On s'est interrogé sur les origines de leur clairement de leur engagement intellectuel en faveur notamment de cette thèse coloniale, de cette vision coloniale de l'immigration viking. Bon, je pense effectivement que de ce point de vue-là, la critique est peut-être allée un peu loin, puisqu'on a, on a cherché quand même à accuser ces chercheurs.
Et Michel Debois en particulier.
Ce qui est toujours un exercice délicat, puisque sans prendre aux idoles passées, tout un chacun sait que ça comporte quand même une part de fausseté dans la démarche. Simplement, faire le deuil d'un certain nombre d'a priori, construire une perspective renouvelée qui intègre, on le voit bien, ce sont des données aujourd'hui très importantes, qui intègrent les données de la génétique, qui intègrent les protocoles, je le disais tout à l'heure également, liés à ces sciences dures, comme vous l'avez précisé. Je pense que c'est un enjeu aujourd'hui pour l'archéologie, l'histoire, pour les sciences humaines, et que ça va nécessairement déboucher sur des connaissances plus affûtées, plus précises sur les origines de nos sociétés. Voilà. Alors, nous sommes tous des métis, hein, sans aucun doute, mais dans quelle proportion tel ou tel événement historique, tel ou tel peuple a-t-il contribué à cette construction culturelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? C'est la question de fond qui se pose.
Patrice Brun, j'ai découvert en vous écoutant et en vous lisant, donc à l'occasion de ce colloque qui se tenait au mois de décembre dernier, que par exemple, il n'y a pas simplement la génomique, mais il y a, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai jamais fait de science, des questions qui sont liées à un matériau qui s'appelle le strontium, c'est ça, ou le strontium, je ne sais pas.
Oui.
Voilà, qui permet, alors moi j'étais très étonné, de définir si un personnage que l'on trouve archéologiquement dans une tombe, par exemple, était originaire de l'endroit où il a été enterré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux, Patrice Brun et Eva Maria Geigel, ce qu'il en est ? Parce que ça permet là de mesurer véritablement la migration d'un personnage au niveau quasiment
absolument
individuel. Est-ce que, expliquez-nous ça, parce que là j'étais très étonné.
Bah, c'est peut-être plutôt votre...
Eva Maria Geigel ?
Non,
allez-y, Patrice Brun.
Oui, ce dont on s'est aperçu, effectivement, c'est que au fur et à mesure que l'on consomme de la végétation ou de la viande dans un endroit où on vit, on reçoit une teneur.
On emmagasine.
Oui, en strontium, si vous voulez, donc, qui se trouve effectivement, qui dépend
de l'environnement.
De l'environnement, en particulier géologique, hein, puis dont les animaux se sont eux-mêmes alimentés, etc. Donc il y a toute une chaîne. Alors, jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, on emmagasine tout cela dans son squelette, mais pour ce qui concerne les dents, ça va rester toute la vie ensuite.
Ce qu'on consomme avant 8 ans avant reste 8 dans ans. Nos dents jusqu'à notre mort.
Voilà. On a en quelque sorte le menu. Et puis lorsque ces gens-là donc ont changé d'emplacement, effectivement, le reste du squelette lui va se charger en strontium selon les proportions donc des régions géologiques dans lesquelles ils se sont installés. Donc c'est extrêmement précieux pour nos archéologues, bien sûr.
Oui, parce qu'on fait dans ces cas-là la différence entre ce qui est stocké dans le strontium des dents, c'est ça, et de ce qui est stocké dans le reste du squelette. Eva Maria Geigel.
Oui, les os se remodèlent tout le temps. Ouais. Donc c'est un métabolisme assez actif, donc ça incorpore les éléments, les atomes et les molécules.
Donc ça veut dire qu'on pourrait presque déterminer des itinéraires d'un personnage par les endroits où il est passé avant d'arriver à l'endroit où il est mort.
Oui.
Mais c'est ce qu'on a fait d'ailleurs il y a quelques années. Il y avait eu des fouilles. On avait cru retrouver le squelette de Foulquenéra, qui était censé être un baron français ayant combattu au cours des croisades. Et un des indices que l'on attendait, si je me souviens bien, de ce squelette, c'était les épidémies qu'il avait croisées sur son parcours en allant combattre en Terre Sainte. Oui. En l'occurrence, on n'a pas trouvé ces traces. Bactérienne.
Mais ça, c'est autre chose. C'est pas lié au strontium. Hein.
Non, pas du tout. Mais c'est un indice de plus pour établir le parcours d'un individu en particulier.
Ça, c'est la génomique. Donc, on essaye de trouver les traces des pathogènes, des génomes des pathogènes.
Oui. Et donc, tout cela, ça permet...
Le strontium, par contre, ça demande avoir une référence des différents endroits qui est très bien connue.
Donc il faut faire une sorte de cartographie
absolument.
Auparavant des lieux du strontium, enfin des lieux dans lesquels ce strontium a donc été stocké d'une certaine façon, pour pouvoir à partir de ces cartes se dire ben, l'individu que j'ai dans la tombe que je suis en train de fouiller est passé par ici pour arriver ici, c'est cela ?
Oui. Absolument.
Il y a un très bel exemple justement pour le campaniforme, pour revenir à notre question celte, hein, une découverte effectivement qui a été faite au début des années 2000, donc à 5 km du fameux sanctuaire de Stonehenge, hein, qui
dont
est
on parle
mondialement
tout le temps.
Connu, on a découvert, par hasard d'ailleurs, les archéologues se passaient pour aller au bistrot, ils ont vu qu'il y avait des petits travaux dans un coin, ils sont allés voir quand même, puisqu'on est quand même pas très loin de Stonehenge, et on est tombé sur la plus riche tombe campaniforme d'Europe. Hein. Donc c'est un personnage qu'on a appelé l'archer, hein, puisqu'il avait un équipement d'archer dans sa tombe, une tombe particulièrement riche, j'entre pas dans les détails. Alors on a fait les analyses effectivement d'isotopes, d'oxygène, de strontium, etc., etc. Et on s'est aperçu qu'il avait absolument pas passé son enfance en Angleterre, mais probablement sur le continent, donc entre la Scandinavie et les Alpes. Et alors des analyses plus précises ont été faites. Oui, c'est déjà vaste. Alors ça, c'est avec l'isotope d'oxygène et avec l'isotope de strontium, on a pu préciser et localiser probablement son enfance qui s'est passée donc dans les Alpes.
Dans les Alpes, et donc il s'est retrouvé à mourir près de Stonehenge en Angleterre.
À mourir près de Stonehenge, doté d'un pouvoir probablement important. Donc ça veut dire qu'il y avait une circulation, au moins des élites sociales, tout à fait étonnante par rapport à ce que l'on avait tendance à penser auparavant.
Oui, parce que cela, Vincent Carpentier, nous fait penser effectivement qu'il y a ces questions de circulation, ces routes qui sont des routes migratoires ou des routes commerciales, qu'il faut repenser là aussi en fonction de ces découvertes par ces nouvelles sciences, Vincent Carpentier.
Oui, alors ça, bien sûr. Bon, concernant toujours le cas précis des Vikings, les routes qu'ils ont empruntées donc vers l'ouest jusqu'en Amérique du Nord, hein, on le sait de façon précise, puisqu'on a retrouvé entre autres le grand établissement de l'Anso Meadows, après avoir été longtemps considéré comme un canular, bon, qui depuis quelques années maintenant est reconnu comme tel. Et puis
sur le continent américain,
à l'est, les Suédois, les Varegs fondent un État considéré par beaucoup comme l'embryon de la première Russie dans la région actuelle de Saint-Pétersbourg, et qu'ils l'étendent vers le sud en remontant le cours des fleuves à travers l'Ukraine jusqu'à Byzance, jusqu'au Moyen-Orient. Donc c'est quand même un fait majeur dans ce chapitre de l'histoire des migrations, que ces grandes navigations, ces grands itinéraires quasiment transcontinentaux. Maintenant, il reste à comprendre pour les historiens, pour les archéologues, pour les généticiens et d'une façon générale tous les chercheurs qui s'intéressent à l'histoire du Moyen-Âge, il reste à comprendre pourquoi et selon quelles modalités ces routes ont été d'abord tracées, puis empruntées. En gros, comment le mécanisme s'est organisé et a pu s'inscrire dans la longue durée.
Il y a quand même des épisodes étonnants, Vincent Carpentier. Je repense à un moment, vous citez le fait que les Vikings ont tenté d'assaillir Paris 4 fois et qu'on est incapable de trouver une trace matérielle, une trace archéologique de ces quatre expéditions. Est-ce que parfois aussi, lorsqu'on est archéologue, on se dit qu'on ne cherche pas le bon objet finalement ?
Alors il y a beaucoup de, effectivement, bon c'est tout d'abord assez frustrant, ça sans aucun doute.
J'imagine, oui.
Il existe aussi beaucoup de contraintes. Une ville comme Paris s'est quand même beaucoup agrandie depuis le 9e siècle. Donc,
et puis il y a eu du passage depuis.
Voilà, il y a eu un petit peu de passage. Donc il est très difficile d'aller retrouver l'endroit exact, l'endroit précis où s'est trouvé cantonné telle ou telle armée en telle année, etc. On se dit bien que d'abord les traces peuvent être après autant de temps finalement somme toute relativement ténues. Et puis d'autre part, il faut tomber exactement sur cet endroit alors qu'on se trouve en plein centre d'une capitale. Bon, il existe aussi un certain nombre d'autres sites très importants liés à cette histoire, en particulier des ponts fortifiés qui étaient construits sur la Seine et les grands fleuves du nord de la France.
Pour protéger Paris, justement.
Alors, on a eu l'occasion. l'occasion récemment de fouiller la partie d'un de ces ponts, qui sont tous aujourd'hui des, en tout cas lorsqu'il en subsiste des vestiges importants, qui sont des sites classés. Donc on va pas forcément systématiquement non plus, je pratique surtout les fouilles archéologiques dans un cadre préventif, c'est dans le cadre d'aménagement, hein, qui détruisent le sol et les vestiges qu'il contient. Donc on va pas forcément voir sur tous ces sites. Le fait est que sur celui qu'on a pu investiguer il y a quelques années, on a surtout découvert quoi ? On a surtout découvert des vestiges francs, c'est-à-dire des vestiges autochtones, aucune trace de viking. Alors que pour une fois, on dispose de sources écrites très précises, hein, qui sont les ordonnances royales des années 860 et qui nous décrivent par le menu tout le chantier de construction, y compris quelques anecdotes liées justement au passage de ces vikings alors que l'établissement n'est pas terminé. Or, lorsqu'on va fouiller sur place, bien sûr, on s'attend à trouver du viking et bien sûr, on n'en trouve pas.
Voilà. Ça veut donc dire effectivement qu'il faut à chaque fois se méfier de la possibilité qu'une discipline ou qu'une science puisse résoudre toutes les questions que se pose l'historien ou le préhistorien. Eva-Maria Geigel, qu'est-ce qu'on peut attendre justement des développements ? Parce que ce qui est très étonnant, c'est la rapidité avec laquelle cette science que vous pratiquez, la paléogénomique, évolue. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les 2, 3, 4, 5 années qui viennent ? Parce qu'en fait, c'est une science qui est très récente et qui a déjà démontré ses qualités quand on s'intéresse à cette question de l'histoire.
Et qui exige un matériau de qualité à analyser aussi.
Absolument. Tout est vrai, ce que vous dites.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut attendre, justement ?
Ben, on va certainement, les études vont se multiplier, on va avoir une compréhension de différentes populations de plus en plus fines, hein, de plus en plus affinées, et on va pouvoir aussi mieux en mieux caractériser les caractéristiques génétiques de ces populations, ce qui va main dans la main avec l'avancée de la génétique moderne. Parce que sans la génétique moderne qui décrit et qui identifie les propriétés actuelles, en termes d'immunité, en termes de maladies, en termes de propriétés quelconques, nous, on ne peut pas les identifier.
Merci Eva-Maria Geigel. Ancestra, c'est pour quand les résultats ? On n'a pas ça tout de suite, on attendra ça encore quelques années.
C'est un projet qui travaille bien, qui produit beaucoup de résultats en ce moment. Donc c'est Mélanie Prévost qui le gère très bien. Donc dans 4 ans, ça devrait être fini.
Eh bien, on vous réinvitera à ce moment-là. Merci à vous Eva-Maria Geigel. Merci Vincent Charpentier. J'allais dire Vincent Charpentier. Voilà, j'ai fait le lapsus à la fin.
C'est Charpentier.
Mais vous êtes intervenu chez nous dans l'émission de Vincent Charpentier qui s'appelle maintenant Carbone 14 entre 19h30 et 20h le samedi, le magazine de l'archéologie, dans le dernier numéro de Vincent Charpentier. Vous y étiez, Vincent Charpentier, sur l'archéologie du Brexit, et merci à vous Patrice Brun d'être venu nous raconter justement comment ces nouvelles disciplines avaient chamboulé une partie de votre recherche. Vous êtes également l'auteur de L'âge du fer en France aux éditions La Découverte. Puis je signale que puisque nous traitions de cette question-là, le monde de la Bible, histoire, art et archéologie, que vous trouverez en kiosque, le numéro 218 s'intitule « Exode, exil, déportation, les migrants et Dieu » et s'intéresse justement aux motivations religieuses de ces migrations. Pourquoi part-on du territoire dans lequel on est pour aller ailleurs ? Est-ce pour pouvoir convaincre les autres de sa religion ? Est-ce pour pouvoir fuir une autre religion qui vous chasse ? En tout cas, c'est la question que pose le monde de la Bible. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et par Aurélie Marseille, Anthony Thomasson était avec nous à la technique et nous avions la chance d'avoir avec nous Véronique Samouiloff à la réalisation.